Merci Paul pour ta prière. Alors, je vous regarde un peu, ça m'aide. 150 personnes qui vous regardent, c'est impressionnant. Et surtout si on multiplie par deux, ça fait 300 yeux. Et donc, ça démultiplie. Mais ce qui me troublerait peut-être un peu ce matin, ce sont les yeux de votre cœur, pas vos yeux physiques. Parce que les yeux de votre cœur cherchent Jésus. Les yeux de votre cœur, de mon cœur, ont faim et soif du Seigneur. Et le prédicateur a bien conscience de ça, et se sent tout petit, pour pouvoir amener, pourrait dire, mais Seigneur, ce sont tes enfants, tu t'en occupes, tu les nourris, tu les chéris, comme c'est dit de Christ par rapport à l'Église, il a nourri, il a chéri. Mais dans sa souveraineté, on va dire, le Seigneur veut passer par des hommes, enfin des êtres humains, pour nourrir. Et c'est ça qui pourrait peut-être... qui me trouble, de savoir, Seigneur, tu connais tes enfants, mais moi je ne les connais pas vraiment. Je les connais de vue, certains, d'autres même pas. Et tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Tu connais les besoins. Alors le Seigneur m'a rassuré quand même. Il m'a dit, mais prêche, et je m'occupe du reste. Et ça, c'est rassurant. C'est-à-dire qu'il va prendre quelque chose de ce que je vais dire à un moment donné ou à un autre, et je l'espère, je le crois, je le sais, et l'appliquer à votre conscience, à votre cœur. Ce n'est plus mon problème. Et ça, ça m'a soulagé. Nous avons, frères et sœurs, un besoin crucial dans nos vies, c'est le besoin de la vie. De la vie d'en haut. Et les circonstances de notre vie, ça a été dit tous ces derniers dimanches, pardon d'y revenir, mais les circonstances de notre vie, les épreuves, sont parfois bien à même de nous amener dans le contraire de la vie, c'est-à-dire, alors je vais peut-être vous choquer avec ce mot, mais dans une forme de mort, c'est-à-dire d'échec. C'est-à-dire de trouble. Et je vais employer des mots qui commencent par des participes passés, des adjectifs. Hein, subitons des épreuves déroutantes. Alors, dans le mot déroutant, il y a la route, le chemin, mais des, ça enlève. Chaque fois qu'il y a des, ça enlève quelque chose. Et la vie nous enlève souvent des choses, déroutant, déconcertant, déstabilisant. Il y a même des périodes désespérantes et décourageantes. Alors ça commence, hein, ça commence, mais ça va monter. C'est ça le but. Il y a quelque chose qui a été enlevé à nos vies. Des espoirs déçus. J'espérais que. J'aurais voulu que. J'aurais voulu que ma santé ne me laisse pas tomber. J'aurais tellement voulu que ça ne se passe pas comme ça. Alors, cette introduction peut paraître un peu négative, abstraite, mais la lecture que nous allons faire dans la parole de Dieu va nous donner la clarté. Et ce thème de la vie abondante, puisque nous en parlons, hein, une vie abondante, eh bien, va être développé. Je voudrais donner juste un petit témoignage, puisque Paul, tu as demandé un témoignage, ben, je vais en profiter d'avoir le micro pour le donner. Pour nous montrer que la vie du Seigneur, la vie de résurrection du Seigneur, est à notre disposition. Tous les jours de notre vie, à toute heure. Donc j'étais dans mes travaux, les bras certainement chargés d'outils, de bricolage, etc., dans la rue. Et voilà que j'entends quelqu'un qui m'interpelle. Alors je tourne la tête et je vois quelqu'un que je ne connaissais pas, un jeune homme, avec des cheveux longs, qui m'appelle, l'air un peu troublé. Il dit « Monsieur, monsieur, où est la route de Vauvert ?» Alors, je me rapproche, parce que j'étais quand même assez loin. Je dis « Mais c'est bizarre qu'on t'interpelle de si loin. » Et immédiatement, mon cœur s'est mis en marche avec le Seigneur. Je dis « C'est pas pour rien qu'il se passe ça. C'est pas pour rien. » Mais je lui dis « Jeune homme, vous êtes loin de Vauvert. T'es un beau voisin, ça fait quand même 7-8 kilomètres. » « Oui, 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 mais je suis anxieux parce que je dois m'occuper d'enfants, ma moto est tombée en panne et je ne sais pas comment aller à Vauvert. Donnez-moi la route de Vauvert. » Et là, pour montrer la vie d'esprit, hein, parce que ça va être quand même le message, l'esprit me dit « Pose tes outils et accompagne-le. » Oh, il y avait tout en moi qui disait non. Il y avait l'artisan qui m'attendait avec les outils, il y avait... Puis voilà, je ne connaissais pas. Mais bon, je peux dire en quelque sorte, j'ai obéi. Et donc, nous voilà partis. Je posais les outils, nous voilà partis. Et là, bien sûr, la discussion s'est engagée. C'est un jeune homme qui faisait de la musique. Alors bon, ben, tant bien que mal, j'avais une idée derrière la tête. Évidemment, vous vous en doutez, il fallait bien que je me paye de mon déplacement. Et donc, j'avais une idée derrière la tête, et au fur et à mesure que le temps passait, la vie de l'esprit me remplissait. Et j'étais vraiment chaud, chaud bouillant, comme on dit. Et alors que ce jeune homme était très intéressé par la conversation sur la musique, enfin, moi, j'écoutais ce qu'il me disait, parce que la musique et moi... mais je lui ai dit que Lilou jouait du piano, bon, enfin, j'essayais de trouver des phrases. Et puis... Il s'est mis à me poser des questions. Et il ne me connaissait pas. Et je lui ai parlé du Seigneur. Et ça coulait. Et à un moment donné, il m'a dit « Mais je sais pourquoi ma moto est tombée en panne. Je sais pourquoi. » Et il me dit « Ce que j'ai retenu là, que je n'avais pas eu conscience, c'est que finalement, ce que vous me présentez, c'est une relation avec Dieu et pas une religion. » On a l'habitude d'utiliser ça. Bon, je m'en étais servi, mais je l'avais développé. Et ce jeune homme, bien sûr, a reçu sa petite Bible que j'avais dans la voiture. Il vous faut toujours avoir une petite, hein, petite Bible dans la vie de poche, toujours. Ou dans la veste, évidemment. Et il m'a dit, je la lirai. Je la lirai. Donc je vous raconte ça parce que le message n'a pas commencé, il faut que je me dépêche. Pour vous dire que la vie de l'esprit est là, à notre disposition, c'est peut-être un peu un grand mot de dire ça, mais disponible, c'est vrai. Elle coule. Il nous faut en être conscient et savoir que Dieu va s'en servir. Dieu va couler sur nous. Et je suis revenu, c'est vrai, fier du Seigneur, bien sûr, et d'avoir eu le courage de laisser tomber mes outils. Et les travaux se sont faits, bien sûr. Alors, lisons ce texte que notre sœur a préparé là-bas sur son ordinateur, dans Luc chapitre 24. Et nous allons voir là encore comment Dieu agit. Oh, c'est un texte que vous connaissez bien. Il peut être en rapport avec Pâques, évidemment, puisque c'est suite à la résurrection. Mais quand je l'ai reçu sur mon cœur, je ne pensais pas du tout à Pâques. Pas du tout, du tout. Et après, j'ai vu que ça pouvait coller. Bon. C'est bien quand même de prêcher Pâques au mois d'août et c'est bien de prêcher Noël au mois d'avril parce qu'on a tous besoin de ces bonnes paroles à tout moment de notre vie. Luc 24, et je vais suivre sur l'écran pour avoir la même version que vous. Verset 13. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient, discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste ? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dites. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le leur donna, et alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. On va s'arrêter là. On parlait de choses déroutantes, déconcertantes, déstabilisantes. C'est ce qui est arrivé à ces deux hommes. Ils avaient mis tout leur espoir dans le Seigneur. Ils avaient vu les miracles. Ils avaient vu que c'était vraiment le Messie. Ils l'avaient entendu. Ils l'avaient peut-être proclamé. Et là, ils l'ont vu mort. Et ils sont restés là-dessus. Jésus est apparu déjà à une personne. Il est apparu à Marie de Magdala. C'est tout. On pourrait dire, sa mission première, c'est d'aller voir ses apôtres, d'aller voir Pierre, d'aller voir Jean. Eh bien non. Le Seigneur Jésus se déroute de son chemin pour aller voir deux disciples qui nous sont inconnus. Avez-vous déjà entendu parler de Cléopas avant ? Non. En entendrez-vous parler après ? Pas plus. Et l'autre, on ne connaît même pas son nom. Mais le Seigneur les connaissait. Et là, il y a peut-être une parole pour nous. Ce matin, pour quelqu'un. Et Paul, tu l'as bien développé tout à l'heure, le Seigneur s'occupe de tous, des petits et des grands. Et peut-être que quelqu'un parmi nous pourrait se dire, mais moi, qui suis-je ? Mais moi, je ne suis pas important. Mais moi, je ne sais pas parler. Mais moi, je ne suis pas connu. Le Seigneur Jésus te connaît et il veut venir à côté de toi. Il est à côté de toi. Peut-être que tu n'en as pas conscience comme eux n'en avaient pas conscience. Et ça, c'est la première chose qu'il faut se dire dans ce texte. C'est que le Seigneur a un cœur pour nous tous. Il a un cœur pour nous tous. La deuxième, c'est sa pédagogie. Sa pédagogie, il ne se fait pas connaître. Avouez que c'est troublant, là aussi. Pourquoi le Seigneur prend une autre forme ? Alors c'est vrai qu'il est ressuscité, qu'il a un autre corps, et que lorsque nous serons ressuscités, aussi nous aurons un autre corps. Et qu'il est possible de passer à travers les murs, etc. Jésus le fait, de se déplacer en quelques secondes sur des centaines de kilomètres. Bon, c'est possible de le faire. Mais pourquoi le Seigneur a changé sa physionomie de manière à ce qu'on ne le reconnaisse pas sciemment? Peut-être que c'est un moyen pour lui d'aller jusqu'au fond de notre cœur. Parce que s'il l'avait fait, il n'aurait pas dit tout ce qu'il y avait dans leur cœur. Tout ce qu'il raconte, nous sommes déçus, nous sommes désespérés, nous espérions que. Le Seigneur Jésus, passant pour un étranger, il leur livre leur cœur. S'il avait annoncé qu'il était Jésus, il se serait tu, peut-être. Donc, n'ayons pas peur de la manière dont le Seigneur se présente à nous dans nos chemins difficiles. Et enfin, le message. Le message de Jésus. Alors, c'est un message qui a pris peut-être un certain temps, beaucoup plus que 20 minutes, parce que pour aller de Jérusalem à Emmaüs, il faut à peu près 2h30. Hein. 11 kilomètres et un peu plus. Je ne sais pas, vous connaissez la région, hein, Pouls, Nîmes, Générac, Nîmes, Vergès, Nîmes, tout ça à pied. Donc le Seigneur avait du temps, plus que moi. Et en plus, c'était le Seigneur. Quelle a été sa prédication? Alors, on en connaît le sens. Il veut proclamer à ses disciples qu'il est ressuscité. Ça, c'est sûr. On est sûr de ça. On sait qu'il va faire référence à l'Ancien Testament. Moïse, les prophètes et les psaumes. Mais c'est grand, ça. Moïse, ce n'est pas simplement l'histoire du petit enfant qui a été sauvé sur l'eau. C'est bien Moïse. Mais Moïse, je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, qu'est-ce que Jésus est allé chercher dans ces livres pour parler de sa résurrection et pour leur parler? Parce que ces disciples-là connaissaient leur Bible. Jésus ne se serait jamais permis, entre guillemets, de les confronter à la Bible s'il ne l'avait pas connue. Et commençant par Moïse et par les prophètes. Donc, il va leur parler de l'Ancien Testament. Mais avant, il va dire quelque chose de terrible. Il va leur dire, vous êtes des gens sans intelligence. Si je vous disais, vous êtes sans intelligence, je ne sais pas si vous le prendriez bien. Et vous auriez raison. Et je ne le ferai pas. Mais, pourquoi le Seigneur l'a-t-il fait? Ce n'est pas qu'il les gronde, ce n'est pas qu'il les sermonne. C'est mieux que ça, bien mieux que ça. Il leur dit, en paraphrasant, l'intelligence dont vous vous servez pour comprendre les événements que vous venez de citer n'est pas la bonne. Vous n'avez pas la bonne intelligence. Il en existe une autre. Vous êtes dans l'IH. Vous connaissez l'IA, hein, bon, on n'en parle pas. Vous êtes dans l'IH, c'est-à-dire l'intelligence humaine, mais moi, je vous propose l'idée. En plus, ça fait un jeu de mots, c'est bien. L'intelligence de Dieu. Et peut-être que ça peut nous faire réfléchir ce matin. Comment appréhendons-nous nos déceptions, nos épreuves, nos échecs, notre souffrance? Est-ce que nous l'appréhendons avec l'IH? L'intelligence humaine, le QI, et nul doute que parmi nous, il y a des QI élevés, mais ça ne suffit pas pour comprendre ce que nous traversons. Il nous faut autre chose. Et là, on va parler un petit peu, alors je vais demander à ma sœur de nous mettre dans Proverbes chapitre 2. Je ne vais pas le chercher dans ma Bible. Je vais attendre que ça s'affiche. Proverbes, chapitre 2, versets 1, 2, 3, 4 et 6. Alors, merci beaucoup, tu es rapide. Et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. On continue, parce qu'ils sont trop beaux ces versets. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence, et il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Et verset, ça s'arrête là sur l'intelligence. Donc on voit que l'intelligence découle de la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. La vraie intelligence, selon Dieu, découle de sa parole. Si nous ne lisons jamais la parole de Dieu, si nous ne la méditons pas, nous avons peu de chances de devenir intelligents. Bon, maintenant, je m'adresse aux étudiants. Les autres peuvent écouter, mais je m'adresse aux étudiants. Il y en a ici. Alors, 119-99. 119-99. Je dis ça pour que tu retiennes les références. 119-99, tu peux aller 100 et 104. Donc, c'est le psaume 119. Psaume 119-99, si tu veux l'afficher. Et là, les étudiants, ils doivent, quand ils abordent leur cours de philo ou autre, ils doivent se rappeler de ce verset. Psaume 119-99. Tu ne l'as pas trouvé ? Si. Alors, je suis plus instruit, ça c'est la version seconde, mais il y a d'autres versions qui disent je suis plus intelligent, pour retrouver le thème qui est le nôtre. Je suis plus intelligent que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Lorsque la parole de Dieu remplit votre cœur, on peut vous raconter ce qu'on voudra en philosophie ou dans d'autres matières, vous êtes plus instruit que celui qui vous instruit. Je ne dis pas ça pour qu'on s'enorgueillisse, ni qu'on parte en rébellion, ni en quoi que ce soit, mais pour que vous mesuriez les enseignements que vous entendez à la lumière de la parole de Dieu. Vous êtes plus instruit que tous vos maîtres lorsque vous êtes rempli de la parole de Dieu. Verset 100, c'est le suivant. Tu étais parti. Et le 104 aussi. Ah, ça va venir. C'est toujours l'intelligence. Voilà. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Donc, chers jeunes, lorsque vous êtes remplis de la parole de Dieu, vous avez une intelligence que n'ont pas ceux qui ont des cheveux gris ou blancs, qui ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Gardez ça sur votre cœur. C'est une... pas pour que vous soyez fiers, pas pour que vous soyez orgueilleux, mais pour que vous sachiez où se trouvent les trésors de l'intelligence et de la connaissance, dans la parole de Dieu. Et le 104, par tes ordonnances, par ta parole, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Voilà. Donc ce que Jésus veut dire à ses disciples, appréhendez votre épreuve, votre tristesse, ce que vous vivez, votre déception, votre échec, avec la bonne intelligence. Et il va mettre en pratique ce qu'il vient de dire. Il va parler d'incrédulité. Je vais très rapidement parler de la foi. C'est le contraire de l'incrédulité. La foi, c'est Romains 10, verset 17. Je vais juste citer ça. Ne le cherche pas. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, intelligence et foi découlent de la parole. Alors, prudemment, je vais essayer de trouver avec vous ce qu'a pu dire le Seigneur dans son message. Parce qu'on a le thème, mais on n'a pas vraiment les références. On peut penser que dans le livre de la Genèse, puisque c'est Moïse, dans le livre de la Genèse, il a parlé d'Adam. Parce que c'est par Adam qu'est arrivé le péché, est arrivé la mort. On peut penser que, puisqu'il va parler de sa résurrection, il a parlé du premier Adam, puisque lui, il est appelé dans le Nouveau Testament le second Adam, ou le nouvel Adam. Et il a dû dire, je peux le penser, voyez, vous pensiez que tout était perdu avec Adam. Tout était perdu, ils étaient en dehors du jardin d'Éden, il y avait les chérubins qui étaient fermés, ils étaient dans la mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ils avaient ça en tête. Donc, on va mourir. Ça y est, c'est fini. On a des pensées de mort. Mais, qu'a fait Dieu ? Il leur a donné un vêtement de peau en sacrifiant un animal et il les a revêtus. Alors, ça peut sembler anodin, mais non. Parce que chaque matin, quand Adam et Ève enfilaient leurs culottes de peau, ils se disaient « Tout va bien pour nous parce que Dieu nous a revêtus. » La vie était là. Et ça venait contrecarrer les pensées de mort qui étaient certainement dans leur tête parce qu'ils savaient que Dieu s'était occupé d'eux. Je pense que, bon, bien mieux que moi, évidemment, le Seigneur leur a parlé d'Adam. Il leur a parlé aussi d'Abel. Abel, c'est le fils d'Adam. Alors vous allez me dire, mais lui, il n'a pas vécu trop longtemps puisqu'il a été tué par son frère. Mais, que nous dit le Nouveau Testament sur Abel ? Il nous dit dans Hébreux 11, de mémoire, le mort parle encore, en parlant d'Abel. Quoique mort, il parle encore. Voilà, exactement, c'est ça. Quoique mort, il parle encore. Je ne sais pas, mais un mort qui parle, c'est qu'il vit. Donc, Abel vit. Et je pense que le Seigneur s'est servi de tous ces personnages qui sont dans l'Ancien Testament pour parler de vie après une notion de mort. Alors, tous ces personnages, évidemment, c'est fragmentaire. Ils ne représentent pas tous, dans un seul aspect, la résurrection du Seigneur. Paul nous a parlé il y a quelques dimanches de Joseph. Lui, c'est plus complet. Alors Joseph, il y a ses souffrances, son abandon. Je ne vais pas reprendre la prédication, mais et puis sa gloire, forme de résurrection. Là, c'est plus complet. Mais dans ces personnages dont je vous parle, il y a des aspects. Enoch. Bon, peut-être vous ne connaissez pas Enoch. Enoch, c'est un homme qui a vécu dans les patriarches. Tout le chapitre 5, ou 4, je ne me souviens plus. Non, 5. Tout le chapitre 5, c'est il naquit, il vécut, il mourut. Il mourut, il mourut, il mourut. C'est une litanie de versets tristes, il mourut. Et pour Enoch, il naquit, il vécut avec Dieu 300 ans, et puis il ne fut plus, car Dieu le prit. Vous voyez ce petit aspect de non-mort ? Non-mort. Ce que je veux dire, c'est que dans la parole de Dieu, il y a la vie qui est cachée et qui envahit une sphère de mort. La vie est victorieuse de la mort. Abraham, regardez cet homme. On en a parlé une fois ensemble. Mais regardons juste cet aspect dans Genèse 22. Il entend une phrase terrible de la part de Dieu. Va et offre ton fils en sacrifice. Quelle pensée de mort! Regardez ce vieillard, parce qu'il avait plus de 100 ans. Il est digne. Le matin, il se lève, pas de plainte, rien, il prépare tout. Et sur la route, son fils lui dit, mais papa, voilà le couteau, voilà le feu, mais l'agneau, il est où? Mon fils, Dieu se pourvoira de l'agneau. Regardez la dignité de cet homme. Mais quand même, au fond de son cœur, mais c'est un ouragan de tristesse, un ouragan d'angoisse. Vous le comprenez, c'est la mort. La montagne, il la voit de loin. Vous savez, si la Bible dit « et voyant la montagne, il vit la montagne de loin », il vit le lieu de Morija. Le lieu de Morija, il le vit de loin, ça veut dire beaucoup de choses. Mais il marchait avec son fils, les deux ensemble, c'est dit deux fois dans le chapitre 22. Et là, au moment de, il entend une voix. Non, la vie va triompher de la mort. Et là, il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? Vous connaissez l'histoire. Il voit un bélier retenu dans le buisson par ses cornes. Et bien sûr, à la place de son fils, il offre le bélier, c'est la vie. C'est extraordinaire. Jacob. Je ne sais pas si Jésus a parlé de Jacob, mais on peut le penser. Jacob, c'est un homme qui a des pensées, il tourne autour de lui-même. Il a trompé son père, il a trompé son frère, il a trompé son beau-père. Il est très intéressé, mais par lui. Jacob, ça veut dire trompeur. C'est la mort quand on trompe. C'est la mort. Mais il arrive à un moment donné dans sa vie où Dieu veut le rencontrer. Il veut le rencontrer et il est saisi d'angoisse parce que son frère arrive avec 400 hommes. Je ne sais pas, mais si vous allez dire bonjour à votre frère avec 400 hommes, 400 guerriers, peut-être que vous faites du souci. Il n'arrivait pas simplement pour lui faire la bise. Et Jacob est inquiet, est angoissé. Alors il sépare sa famille en deux, enfin, vous connaissez tout ça. Mais dans cette scène de mort dans son âme, il a un combat avec un homme. Cet homme n'est autre que Dieu. C'est une forme de théophanie, c'est Dieu qui se transforme en homme, si on peut dire, et qui lutte contre Jacob. C'est un peu mystérieux, mais c'est comme ça que ça nous est présenté. Et lorsqu'il Dieu n'arrive pas à le vaincre, tellement que Jacob est fort dans son âme. Vous savez ce que c'est, une force d'âme. Et Dieu veut le vaincre, alors il luxe sa hanche, et il va boiter jusqu'à la fin de sa vie pour se rappeler que sa force n'est plus en lui-même, mais est en Dieu. Et Jacob s'en rappellera jusqu'au dernier jour de sa vie, et son nom va être changé, un nom de vie, prince de Dieu. C'est mieux de s'appeler prince de Dieu que de s'appeler trompeur. Donc, il est possible que le Seigneur ait encore utilisé cet exemple à ses disciples. Il avait le temps, il avait 2 heures devant lui. Le peuple d'Israël, ça c'est Exode, mais c'est toujours Moïse. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est abattu, c'est un peuple qui est fouetté, c'est un peuple qui gémit, c'est un peuple qui crie, une forme de mort. Et vous connaissez la suite. Dieu intervient, le sang est sur les linteaux et les poteaux de la porte, les enfants sont sauvés, les premiers-nés sont sauvés, et le peuple sort. Et au chapitre 15, des cris de victoire, des cris de vie retentissent dans le cantique de Moïse. Vous allez me dire, mais André, bon, d'accord, j'étais à peu près suivi jusque-là, à peu près, mais le Lévitique, qu'est-ce que tu vas nous sortir là-dessus? C'est Moïse. Dans le Lévitique, il y a la loi du lépreux. Je ne vais pas la développer, c'est 2 chapitres, 13 et 14. Mais dans la loi du lépreux, il y a 2 oiseaux. Le sacrificateur prend 2 oiseaux. Il y en a un qui est sacrifié, et l'autre, bon, c'est un peu macabre ce que je vous dis, mais c'est la Bible, hein. L'autre, ses ailes sont trempées dans le sang du premier, et il est relâché. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui nous parle de la mort et de la résurrection du Seigneur? Mort, premier oiseau, résurrection, deuxième oiseau. Bien mieux que moi, le Seigneur a été capable de leur montrer la puissance de la résurrection. Joseph, j'en parle pas. Le peuple d'Israël s'est fait. Lévitique s'est fait. Nombre. Eh oui, c'est toujours Moïse, Nombre. Qu'est-ce que le Seigneur a pu prendre dans Nombre? Dans Nombre, je pense qu'il a pris, vous savez, quand ce peuple est piqué par les serpents parce qu'il a murmuré, parce qu'il a désobéi, et la solution qui est proposée à ce peuple, c'est qu'il est en train de mourir. Parce que chaque fois qu'un Israélite était piqué par le serpent, il mourait. Mais chaque fois qu'il regardait vers le poteau, il vivait. Mort, résurrection. Mais il y a les prophètes après Moïse. Alors, il va dire, il ne va pas recommencer, c'est midi moins le quart. Non, très rapidement, je le laisse à votre étude personnelle, Élie. Élie est désespéré, il est déprimé, il a envie de mourir. Il dit à Dieu, prends-moi, maintenant ça suffit, j'en ai marre de vivre. Mort. Mais que fait le Seigneur? Il dit non, Élie, regarde, j'ai mis à côté de toi un plateau sur des pierres chaudes. Mange, prends des forces, tu iras un peu plus loin. Et puis, je te donne une mission. Tu iras oindre le roi Zaé, tu iras oindre Jéhu, tu iras oindre, etc. Élisée repart, sa dépression est partie, parce que Dieu l'a visité. Mort, résurrection. Élisée, il me reste juste deux prophètes. Élisée a décidé de faire un repas, une période de famine, pour les prophètes. Et dans la marmite et dans le chaudron, quelqu'un, par inadvertance, met de la vigne sauvage, des coloquintes. C'est un poison. La mort est dans la marmite. La mort. Que fait Élisée? Il prend de la farine. La farine, dans la Bible, c'est toujours, toujours le symbole de Jésus. Parce que le grain de blé a été brisé, parce que avec on fait le pain, parce que Jésus est le pain. C'est toujours, faites-moi un peu confiance, c'est toujours la farine, Jésus. Et c'est la vie. La mort n'était plus dans la marmite. Ils peuvent manger. Et enfin, Ésaïe 53, verset 10, que je vais lire pour terminer. Ésaïe 53, vous le connaissez par cœur, hein, c'est ce fameux chapitre qui parle des souffrances et de la mort de Jésus. Alors, Ésaïe 53, au verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. J'ai mal à le lire parce que c'est la version second 21 et je n'ai pas l'habitude. Mais, voilà, on voit la mort et la vie. Pourquoi le Seigneur ne se serait pas servi d'Ésaïe 53 pour parler aux disciples? Les psaumes, je vous les cite de mémoire. Psaume 16, ton bien-aimé ne verra pas la corruption, mais il aura la vie. Et le psaume 22, c'est la même chose. Alors, concluons, parce que je vais me faire gronder par Paul après. Concluons. Résumons-nous et concluons. Et pour que ça aille vite, je ne vais pas déborder, je vais vous lire ma conclusion. Dieu ne laisse pas ses enfants s'enfoncer et s'égarer, il les rejoint et se révèle. Il ne nie pas sa croix, mais proclame sa résurrection. Il annonce une intelligence qui vient de lui et qui transcende la nôtre. Cette intelligence vient de la parole reçue avec foi. Dieu rappelle que la mort a été engloutie dans sa victoire, dans sa vie. Le secret de Dieu, c'est la vie de résurrection de Christ en nous. Toutes nos morts peuvent trouver leur vainqueur dans la vie de résurrection. La vie en abondance promise dans le Nouveau Testament se trouve dans des cœurs débordants de vie au milieu de situations de mort. Le christianisme mature s'empare de ces choses. Il les recherche, il les sonde. Une énergie nouvelle remplit le cœur des croyants. L'onction de l'esprit descend. Et le monde qui nous entoure est subjugué et s'écrie « Dieu est réellement parmi eux. » Amen. Seigneur, tu nous as donné par ta parole des tas d'aperçus de qui tu es et de ce que tu veux faire. Garde-nous de désespérer. Garde-nous, Seigneur, de garder nos anxiétés, nos inquiétudes, nos tourments, mais de te les amener, afin que ta vie et ta vie abondante de résurrection coulent en nous dans ce que nous traversons. Seigneur, nous t'en prions, fais-nous vivre ce christianisme victorieux, fais-nous vivre ce christianisme qui interpelle, fais-nous vivre ce christianisme, Seigneur, qui te glorifie et qui amène ta gloire sur la terre. Au nom de Jésus, amen.